carnets de campagne. Bonjour. Les carnets s'installent dans le Cher jusqu'à vendredi. Ce département revendique sur son site officiel une ruralité moderne. On n'en doute pas. Mais pour l'instant, la densité démographique stagne dans ce territoire au cœur de l'Hexagone. Hormis Bourges et son agglomération qui approche les 100 000 habitants, les deux autres villes secondaires de Vierzon, 27 000 habitants, et Saint-Amand-Montrond, 11 000 habitants, sont à l'image de ce département très rural. Je me suis d'ailleurs amusé à lire les données rapportées par nos confrères du Berry Républicain, que je salue, depuis le répertoire national des élus locaux. Âge, métier, sexe, qui sont les élus du Cher, s'interroge l'article. Les réponses sont claires, à l'image des ruralités. 65% des maires sont âgés de plus de 60 ans. Un quart des élus provient du monde agricole, qu'ils soient actifs ou déjà retraités. Et les femmes élues maires sont dans une proportion bien inférieure au quart de l'ensemble. Anecdote amusante, les prénoms les plus fréquents chez les conseillers municipaux sont Alain, Michel, devant Philippe, Christian et Gérard. Salut Gérard. Pour modifier ces statistiques, nos deux invités sont deux femmes, Marine et Anne. Marine Durieux pour les espaces naturels sensibles du Cher et Anne Dupuis pour son étrange centre de soins à Toupic au service des hérissons.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Marine Durieux, bonjour.
Bonjour à tous.
Marine, vous êtes animatrice et garde animatrice, on dit, des espaces naturels sensibles du Cher, pour le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Garde animatrice, ça signifie que vous avez quelle fonction ?
Alors j'ai une double fonction qui est à la fois chargée de gestion écologique et animatrice nature.
Ouais. Gérer, ça veut dire interdire, surveiller ?
Ça veut dire un petit peu tout, ça peut être effectivement un aspect plus réglementaire, de réglementation, de police de l'environnement, mais surtout en fait des travaux de restauration et d'entretien des espaces naturels.
Mmh. Vous voyez aujourd'hui à propos des espaces, on va parler de vos espaces sensibles naturels, savoir à quoi ils correspondent exactement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un certain civisme aujourd'hui où on s'approprie les espaces naturels parfois en zone de déchets ?
Alors en fait, oui, ça peut arriver. Le but du jeu, c'est de vraiment favoriser l'acquisition des terrains par les locaux. On va éviter de mettre trop de réglementations. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que les locaux aient envie eux-mêmes de préserver ces espaces. Après, on a des zones, effectivement, où on va avoir plus de déchets que d'autres, liés à des activités touristiques, liés à des activités sportives. Mais ça reste anecdotique et c'est quand même pas la majorité des sites.
On connaît les sites et les zones Natura 2000. Les sites comme les vôtres dans le Cher, labellisés espace sensible naturel, quelle est la différence entre ce type de label et celui d'une zone Natura 2000?
Alors en fait, déjà c'est pas porté par les mêmes structures, c'est-à-dire qu'un espace naturel sensible, c'est porté par le département qui perçoit une taxe en fait sur la construction, la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments. Et cette taxe a pour but de valoriser des espaces naturels, de les acquérir ou de les gérer. Et justement, dans le Cher, grâce à cette taxe, il y a 17 espaces naturels sensibles qui sont valorisés et qui sont labellisés ENS.
Il y en a un particulier qui correspond au sablon de Corcoix et crâne nature remarquable, dit-on, de près de 10 hectares.
Exactement. C'est un site voilà, où on a un habitat qui s'appelle une landine à armoise champêtre, qui est un milieu qui est en danger critique d'extinction au niveau de la région.
Oui.
Et c'est pourquoi ce terrain, en fait, qui est une propriété communale, a été confié en gestion au Conservatoire d'espaces naturels et a été également labellisé espace naturel sensible par le département du Cher.
Oui. Ce qui est nouveau, et en vous écoutant, Marine, c'est de vous entendre parler d'extinction d'un site naturel comme on parle de l'extinction d'une espèce animale.
Oui, c'est vrai. On parle rarement de l'extinction des milieux. Quand je dis landine à armoise champêtre, c'est tout un tas d'espèces végétales et animales qui sont associées en fait.
Et en fait, c'est le pâturage animal et l'éco-pâturage qui, abandonné depuis 2014 sur ce site des Sablons de Corcoix, menace en fait cet espace sensible naturel.
Exactement. En fait, l'avantage de ce pâturage, c'était qu'il entretenait le site et il le maintenait ouvert, c'est-à-dire dans des milieux de pelouse ou de prairies. Et là, suite au départ des bêtes en 2014, on a justement des zones qui vont s'embroussailler. Et nous, ce qu'on cherche, c'est quand même à préserver nos pelouses et nos prairies. Et pour ça, il faudrait remettre en place du pâturage où quelqu'un va venir vraiment s'installer en faire son exploitation éventuellement, ou alors voilà un particulier qui aurait quelques bêtes qui recherchent du terrain, pour préserver ce site de façon durable sans avoir à intervenir et engendrer des coûts qui sont quand même plus lourds quand on intervient mécaniquement.
Quel est le bénéfice pour un espace naturel d'utiliser des animaux en pâturage ?
Alors, l'avantage, c'est que souvent, en fait, ce qu'on appelle les espaces naturels, c'est pas des espaces profondément naturels à 100%. C'est-à-dire que c'est des espaces qui ont été forcément façonnés par l'homme au travers de son activité et notamment l'agriculture. C'est le cas notamment d'un site, un autre espace naturel sensible du Cher qui s'appelle les Chaumes de la Périsse à Dun-sur-Oron, où là, sur 300 hectares, on a 250 ans de pâturage. Et les espèces y sont parce que elles ont été favorisées par ces 250 ans de pâturage et du coup on met tout en œuvre pour le valoriser toute l'année et le pérenniser.
Alors je vais vous demander une dernière explication, Marine, parce que vous dites que par le pâturage, certaines espèces peuvent être favorisées, en particulier les espèces nitrophiles.
Oui, qui aiment le nitrate, qui vont préférer se développer sur des endroits où la terre a été enrichie par les excréments des animaux.
Je découvre, et ça je ne savais pas. Donc avis aux éleveurs, comme aux particuliers, posséder des animaux qui pourraient entretenir ces espaces naturels et reprendre cette tradition qui valorise la biodiversité, on l'a bien compris. Vous allez trouver les liens avec le Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire à nos pages d'émission, et puis le contact avec Marine pour ces espaces naturels sensibles du Cher. Merci Marine.
De rien, merci à vous.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Nous avons reçu un courrier dénonçant les Bérivores, association fondée par des groupes de consommateurs, comme on disait tout à l'heure, de Bourges, d'Issoudun et de Châteauroux. La finalité est, selon un principe maintenant largement partagé par d'autres collectifs dans d'autres régions, de proposer des paniers de produits locaux issus d'une agriculture paysanne. Sur la page de leur réseau social, je découvre une AMAP dite des 5+, installée dans la commune de Plainpied, drôle de nom, Plainpied-Givaudin, très exactement, de son nom officiel, 2000 habitants, à 15 km au sud-est de Bourges. Et ici, particuliers, bénévoles et habitants de la commune et des communes voisines se sont regroupés pour l'achat direct de produits issus de l'agriculture paysanne bio. Vous allez avoir des liens avec les Bérivores et la map des 5+, à nos pages d'émission. Mais je retiens aussi un spectacle désopilant programmé par cette AMAP sous le nom de « Pourquoi les poules préfèrent être élevé en batterie ». Cette conférence du professeur Guy Rouget, directeur de l'école d'agriculture ambulante, est le fruit du travail d'écriture et d'interprétation de Jérôme Rouget. Un monument d'humour selon Télérama pour ce spectacle créé au festival de Pougny-Hérisson. C'est un hasard si on va parler dans un instant du centre de soins pour les hérissons. Et si la bande annonce du spectacle est aussi prometteuse que le spectacle lui-même, il faut vraiment pas le manquer à Plainpied ou ailleurs. À noter que Jérôme Rouget est membre du théâtre, de la compagnie du théâtre de la Martingale, dont le siège est à Poitiers. Et on vous a mis en lien un extrait vidéo de ce spectacle, Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie. Il y a aussi le site du théâtre de la Martingale, lamartingale.com. Voilà qui est dit. Anne Dupuis, bonjour.
Bonjour, Philippe Bertrand.
Anne, comment êtes-vous devenue le docteur des hérissons ?
Alors, docteur, entre guillemets, plutôt infirmière, on va dire.
D'accord, infirmière.
Les docteurs, ce sont les vétérinaires. Ouais. Alors, moi, j'ai été confrontée en 2009 à l'arrivée de petits hérissons. J'ai un petit voisin qui avait récupéré des bébés hérissons. La maman était morte. Et il savait que je récupérais quelques petits animaux de temps en temps pour les retaper un petit peu puis les relâcher. Donc il me les a apportés, mais seulement moi, le hérisson, j'en avais jamais vu non plus. Je ne connaissais pas du tout l'espèce. Et j'ai été un petit peu embêtée parce que j'ai frappé à pas mal de portes pour savoir ce que je pouvais faire de cette espèce. Et puis tout le monde m'a dit débrouillez-vous, hein, on connaît pas le hérisson, on peut pas s'en occuper. Donc j'ai tapoté un petit peu sur internet, j'ai trouvé quelques renseignements auprès d'une association et puis voilà, je me suis intéressée comme ça à l'espèce.
Ouais. Et vous avez ouvert donc un centre de soins chez vous à Masset, avec une autorisation préfectorale, hein, donc c'est un lieu dédié aux soins des hérissons. Vous avez ouvert en 2011, l'année dernière, vous en avez recueilli une centaine dans votre centre de sauvegarde. Sauf que j'ai déjà pris un hérisson dans la main, ça pique.
Alors oui, ça pique. Alors bon, normalement, c'est vrai qu'on n'a pas touché un hérisson. C'est interdit par la loi. Bon, sauf
c'est interdit par la loi.
Blessé ou malade, hein, les gens ont le droit de les récupérer. On demande aux gens de mettre plutôt des gants. Hein. C'est vrai que ça peut être porteur de maladie.
Mais Anne, excusez-moi, vous dites c'est interdit par la loi.
Oui. Alors, ce sont des espèces protégées hein, depuis 81, hein, en voie de disparition, qu'on ne peut pas récupérer comme ça chez soi. S'amuser avec et puis la laisser dans son jardin. C'est vraiment, on est obligé de passer une capacité spécifique à l'espèce. Hein.
Et le coût des soins, en moyenne, pour un animal, un hérisson, chez vous, à Atoupic, est de 70 euros ?
Oui, environ. Alors, on a des animaux comme les bébés d'automne qui peuvent rester à la maison, enfin, au centre de soins, pardon, 2-3 mois, hein, le temps qu'on les élève, qu'on les passe en parc de réhabilitation et qu'ensuite on les relâche. Hein. Et puis, on a les bébés d'automne qui n'ont pas le poids requis pour passer l'hiver. Hein. Et là, on est obligé de les garder plus longtemps. Donc, ça commence de septembre et on les relâche au début du printemps.
Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les hérissons, en particulier que le hérisson est porteur de bactéries, en tout cas de puces plus particulièrement, que c'est un pucier ambulant.
Ben, c'est vrai, c'est faux, hein, parce que alors un animal affaibli et malade va développer évidemment beaucoup plus de puces, de tiques, hein, qui vont affaiblir l'animal jusqu'à le tuer. Hein. Mais sinon, moi, il m'est arrivé de récupérer des animaux qui avaient juste été blessés et qui n'étaient vraiment porteurs d'aucune puce, hein, ni d'aucun tique. Hein. Ça dépend des animaux. Bon, c'est vrai qu'ils traînent dans la terre, ils grattent dans les composts, donc ils peuvent être porteurs effectivement de bactéries. Hein. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas trop y toucher.
Quel est leur rôle dans la nature ?
Alors, le hérisson est classé dans les insectivores. Hein. Il a quand même un régime alimentaire à, on va dire, entre 70 et 80% d'insectes. Hein. Mais moi, je l'aurais mis plutôt dans les omnivores parce que c'est aussi un petit opportuniste. Hein. Il peut se nourrir d'une petite grenouille, d'une petite souris, d'un petit oisillon, d'un... Voilà. Il peut manger aussi quelques restes que vous jetez dans votre compost.
Ça impliquait un aménagement très important chez vous, à Toupic, et la création de ce centre de soins. On peut voir des vidéos. Il y a une pièce aménagée spécialement pour les premiers soins à ces animaux. Ensuite, il y a la deuxième phase, passage à un plus grand espace extérieur avant retour à la nature. C'est un dispositif qu'on n'imaginait pas au profit de ces petits animaux.
Mais c'est nécessaire. Si on veut faire une bonne réhabilitation, dans les meilleures conditions, c'est indispensable. Mmh. Tous les centres de soins devraient être et fonctionner de cette manière-là.
Alors, je ne veux pas nécessairement parler d'argent, mais que recevez-vous en retour, Anne ?
Bah, personnellement, déjà, beaucoup de satisfaction, hein, même si c'est un sacerdoce. Mais bon, c'est la préservation de cette espèce hein, qui date quand même de plus de 65 millions d'années et qui risque de disparaître là bientôt.
Et si quelqu'un réalisait une étude sur les chances de survie de ces animaux de façon à adapter leur sauvegarde comme vous la pratiquez, une étude qui serait une étude télémétrique sur le devenir de ces animaux une fois relâchés, on peut vous contacter. Alors le site c'est atoupic-sauvegarde-hérisson. Et puis il y a la page aussi Facebook, à sos.atoupic.
Voilà. C'est vrai que moi, ça me tient à cœur depuis déjà pas mal d'années, hein, cette étude télémétrique. Et oui, comme vous le disiez, donc adapter nos méthodes de détention en captivité pour que ces petits animaux se réadaptent comme il faut à la nature.
Très bien. N'hésitez pas à contacter Anne à l'association Atoupic à Massé. Merci Anne.
Merci à vous.
J'ai tout juste le temps de vous rappeler la suite de notre feuille de route. Nous serons la semaine prochaine dans la Manche avant de traverser l'Orne. Au mois de mars, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Charente-Maritime, la Gironde et début avril, le Lot-et-Garonne. N'hésitez pas à nous écrire comme vous le faites tous les jours. Merci au passage.